RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, il est l'heure de revenir sur les informations à retenir de ces derniers jours. 126 athlètes français sont actuellement à Rio dans le cadre des Jeux Paralympiques. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mercredi. 11 représentants des Pays de la Loire sont sur place, parmi eux quelques novices. Après Rio, nous repartirons en France et plus précisément au Mans pour l'initiative de la semaine. Depuis un an, la SNCF a mis en place les bus low-cost Ouigo, une offre qui a l'air de séduire les voyageurs et notamment ceux des Pays de la Loire. La rencontre de la semaine nous est proposée par Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Il met son talent au service de la foi. Le chef de chœur Pierre-Olivier Bigot était à Lourdes cet été pour animer les cérémonies du 15 août. Dans la pause SPI, nous ferons le point avec Fanny Brevet sur les initiatives prises par les paroisses et les communautés un an après l'appel du pape concernant l'accueil des réfugiés. Enfin, pour la sortie de la semaine, nous prendrons la direction de Châteaubriant en Loire-Atlantique pour la foire agricole de Béret. Et voilà pour le sommaire de cette hebdo-région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Vous l'avez peut-être suivi sur vos écrans de télévision. Mercredi soir, Le Monde avait les yeux rivés sur la cérémonie des Jeux Paralympiques d'été à Rio, les 15e de l'histoire. Au total, 176 pays participent à la compétition. La France, elle, compte une délégation de 126 athlètes. 24 sont originaires du Grand Ouest et parmi eux, 11 représenteront les Pays de la Loire au Brésil, Maria Goyer.
Ils s'appellent Arnaud Assoumani, Stéphane Houdet ou Anaël Roulet. 4 athlètes de Loire-Atlantique, 3 de Maine-et-Loire, 3 de Vendée et 1 Mayennais sont actuellement à Rio dans l'espoir de briller et pourquoi pas décrocher une médaille. Pour certains, c'est une première. C'est le cas de Cindy Moreau, kayakiste qui a bien failli manquer l'événement à cause d'un désaccord avec sa fédération.
Il y a eu conflit sur la classif, à savoir que le paracanoë est un sport nouveau. Il fait son entrée au jeu cette année en 2016 et... En gros, il ne voulait pas que mon handicap soit représenté au jeu, mais dans les textes, il n'y avait pas marqué qu'on pouvait m'interdire cet accès.
Votre handicap, est-ce qu'on peut le rappeler aux auditeurs ?
C'est une paraplégie, c'est un trouble fonctionnel.
Est-ce que vous avez eu, vous, des doutes sur votre sélection ? Vous êtes passé par des moments de stress ?
Les dernières semaines, j'y ai douté, oui. Vraiment, les dernières semaines, j'y croyais plus du tout. Et quand on m'a interdit les mondiaux, là, ça a mis un bon coup. Et par la suite, on m'a dit, on va aller aux Europes quand même. Tu dois repasser en classif. Et j'ai repassé ma classif. Et on m'a fait, c'est bon, c'est fini, tire au jeu. Ça s'est terminé comme ça. Et c'est pas mal. Un très gros soulagement, oui.
Vous, vous êtes fixé des objectifs précis ?
Vu l'année que j'ai passée, non. Sans mentir, vu l'année qui a été très, très difficile, le conflit a débuté aux Europes dernier. Donc ça fait un an qu'on était dans l'incertitude. Un an de galère. Non, je ne me suis pas donné d'objectif fixe.
À l'inverse, Jérémy Crépelière, lui, vise l'or. Le cycliste saumurois de 35 ans a fait du contre-la-montre olympique son objectif de l'année. Il s'entraîne depuis tout jeune, un peu contraint et forcé.
Ça a été un peu compliqué. Dans les débuts, je suis arrivé, moi, dans le vélo par rapport à ma rééducation. Je suis né avec un handicap assez important au niveau de la jambe droite. Je suis né sans cheville, sans péroné. J'ai eu une quinzaine d'opérations. Et je suis passé par le vélo pour ma rééducation. Et de là, voilà, de fil en aiguille, j'y ai pris goût. Je suis venu à la compétition, mais chez les valides. Et au final, j'ai été détecté par la Fédération française handisport. Et je suis arrivé sur les courses internationales comme un cheveu sur la soupe hein, en 2007, où j'ai obtenu une belle place de 4. Et du coup... Je suis passé sur la liste de haut niveau et aujourd'hui j'en suis là, donc ça fait 10 ans que ça dure, donc c'est une belle aventure.
Une belle aventure que s'apprête également à vivre Matteo Boeas, seulement 20 ans, spécialiste du tennis de table. Il part à Rio avec des ambitions élevées au vu de ses dernières performances.
Les deux dernières championnats d'Europe par équipe, on fait deux fois médaille de bronze. Et après en France, je suis plusieurs fois champion de France, donc c'est bien. Après moi vraiment l'objectif c'est d'avoir des médailles européennes, mondiales ou aux Jeux, donc... On va essayer de faire ça des Rio. Je vise deux médailles, une en simple et une en par équipe. Dans les deux, je peux parce que je pars 3 dans chacune d'elles.
Donc, troisième mondial dans chacune d'elles ?
Ouais, je suis numéro 3 mondial en simple et en par équipe, avec mon classement de mon partenaire, on part également 3. Donc voilà, en simple, ça va être compliqué parce qu'il y a un bon niveau de jeu chez tout le monde, mais il y a vraiment moyen. Donc on va essayer. Et en par équipe, on a vraiment même moyen d'aller chercher l'or c'est vraiment pas interdit, donc on va tout faire pour.
Et grâce entre autres à ces athlètes ligériens, la France espère revenir avec davantage de médailles qu'à Londres il y a 4 ans. En 2012, la délégation tricolore avait décroché 45 breloques, dont 8 en or.
Merci Marie, on suivra ça avec attention. Je vous rappelle que France Télévisions retransmet l'événement un petit peu tous les jours. Excellente nouvelle pour l'emploi en Loire-Atlantique. L'avionneur européen Airbus a annoncé mercredi la signature de 2 commandes fermes et d'un protocole d'accord avec différentes compagnies aériennes vietnamiennes. Au total, 40 avions en commande. Une annonce faite dans le cadre de la visite de François Hollande au Vietnam. Ces contrats représentent un montant cumulé de 5,8 milliards d'euros et du travail pour les usines Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire. La rentrée des leaders syndicaux nationaux ne s'est pas faite à Paris cette année, mais à Nantes. Les secrétaires nationaux de la CGT, de FO, de la FSU et de l'UNEF ont organisé mercredi un meeting commun sur l'esplanade des machines de Lille. 2000 personnes ont suivi les discours de ces responsables opposés à la loi travail. Alors que la loi est promulguée, ces syndicats promettent de lutter à l'intérieur, même des entreprises et sur le terrain juridique. Une manifestation avait d'ailleurs lieu jeudi, une autre est prévue le 15 septembre prochain lors d'une journée de mobilisation nationale. Une mutinerie a eu lieu dimanche à la prison d'Angers. Une soixantaine de détenus a refusé de rentrer dans les cellules après l'heure de la promenade. L'objectif, faire entendre leurs revendications concernant leurs conditions de détention. Insalubrité, maladie à répétition, la prison angevine inaugurée en 1856 est bien connue pour sa vétusté. Finalement, tout est bien rentré dans l'ordre vers 21h30. Le ministère de la Justice, quant à lui, prévoit la construction d'une nouvelle prison en Maine-et-Loire d'ici 2023. Et puis, grosse agitation dans la ville d'Evron en Mayenne, où Merwan Benhamed, l'ancien membre du groupe islamique armé, est assigné à résidence depuis 9 mois. Jeudi matin, l'homme ne s'est pas présenté à un de ses 4 pointages quotidiens à la brigade de gendarmerie. Aussitôt, les forces de l'ordre se sont lancées à sa recherche sans succès. Un mandat international a été délivré. Pour rappel, Merwan Benhamed a été condamné en 2006 à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Depuis qu'il a purgé sa peine de prison, il est interdit de séjour en France, mais étant condamné à mort en Algérie, son pays d'origine, il ne peut être extradé. Depuis 2011, il passe donc de ville en ville et on se souvient qu'avant d'arriver en Mayenne, il a fait un passage remarqué dans le Maine-et-Loire du côté de Beaupro et Segré.
L'Hebdo-Région, initiative.
Et cette semaine, dans la rubrique initiative, nous prenons la direction du Mans. Bonjour au Beurre et Métro.
Bonjour Bastien.
Si j'ai bien compris, vous allez nous faire faire des économies aujourd'hui.
Eh bien oui, parce qu'avant, pour rejoindre Paris rapidement, on avait une seule solution en Pays de la Loire, c'était prendre le TGV. Mais depuis un an, vous les avez peut-être vus dans les rues, ils fleurissent, les cars low cost. Ils partent de Nantes, d'Angers, du Mans ou de Laval pour rejoindre Paris ou la Bretagne et ils séduisent de plus en plus de voyageurs.
Il faut dire, Aubery, que suivant les périodes, le car peut coûter jusqu'à 6 fois moins cher que le TGV.
Oui, si on compare les trajets en période de pointe, pour Le Mans-Paris, il faut compter 60 euros par le rail et 9 euros par la route. Avec le bus, nous mettrons 2h45 pour une arrivée à l'est de Paris contre 50 minutes pour rejoindre Montparnasse et le centre de la capitale. Mais les 8 bus affrétés par la SNCF sont remplis en moyenne à 80% selon le directeur d'exploitation. Wi-Fi, prise électrique, toilette, les véhicules sont parfois mieux équipés que les wagons. Entre Paris et Nantes, 4 compagnies se partagent le marché depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron, c'était l'été dernier.
Et mais pourquoi Aubery miser sur ce mode de transport ?
La raison principale, c'est de concurrencer le covoiturage, un système très développé au Canada par exemple et qui gagne des parts de marché en France. Le principe est simple, un site internet met en relation le conducteur qui cherche à partager son trajet et les passagers. Un lieu et une heure de rendez-vous sont fixés, le tour est joué. L'argent ne circule pas de main en main, mais via le site, c'est plus sécurisé pour les deux parties. C'est un moyen convivial, économique et écologique de voyager. Alors pour convaincre les clients d'emprunter l'autocar, les compagnies mise sur la sécurité. Marc Martrette est le directeur des opérations sur le réseau Ouibus.
Nous, on considère qu'on a réinventé le bus avec des nouveaux standards à bord. On a vraiment mis une forte option sur la qualité du voyage. On commence par des prises électriques dans tous les bus. On a le Wi-Fi à bord. Nous avons des espacements entre les sièges relativement confortables, des tablettes type aviation qui permet de poser son micro et si le siège précédent s'incline, le micro ne tombe pas. Les toilettes sont en bord également de tous les véhicules. On a fait un très très gros effort également sur le recrutement de nos capitaines. Ce ne sont pas des conducteurs de car, on les appelle capitaines à Ouibus, qui ont une très très grosse expérience professionnelle, mais aussi un grand sens de la relation client, du service au client, de l'information au client. Nous, on a beaucoup misé sur la sécurité active à bord de nos véhicules.
Et qui sont les voyageurs qui empruntent les autocars au Bury ?
Eh bien, le voyageur type, Bastien, ça pourrait être vous et moi, jeunes trentenaires actifs, mais il y a aussi des plus jeunes que nous, des étudiants et des retraités. Marc Martrette.
Ce sont plutôt des moins de 35 ans, donc on est à 58% de moins de 35 ans. Le voyageur type, c'est presque une femme aussi, une voyageuse, puisque c'est une femme à 60% à peu près. Et puis, on a de plus en plus de déplacements privés et professionnels de tous les âges, en fait, parce que l'offre que nous proposons à des prix assez intéressants permet à des nouvelles personnes de voyager. Donc, on a des seniors également dans nos cars depuis le lancement.
Aujourd'hui, Ouibus est une compagnie low cost, indépendante de la SNCF, mais même si elle se sert de ses moyens de communication, 1,5 millier de voyageurs ont emprunté l'année dernière ce moyen de transport.
Merci, Aubery. Je vous dis à la semaine prochaine.
Bonne semaine, Bastien.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Eh bonjour Samuel Péco.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Dans nos églises, dans nos chorales, beaucoup de fidèles prennent plaisir à chanter leur foi et animer les cérémonies. Cette semaine, Samuel, vous nous proposez une rencontre avec un chanceux, Pierre-Olivier Bigot, un chef de chœur professionnel qui était à Lourdes cet été pour animer les cérémonies du 15 août.
Oui Bastien, et on peut le dire, Pierre-Olivier Bigot a toute sa place dans cette hebdo-région. Il est né, il a grandi en Mayenne, aujourd'hui il vit à Châteaubriant, en Loire-Atlantique, où il est professeur de chant, et il dirige la chorale Voca d'Élise, dont le berceau est à Segré dans le Maine-et-Loire. C'est donc un vrai citoyen ligérien. Alors oui, c'est un passionné de musique. Il est titulaire d'une maîtrise en musicologie et d'un diplôme de direction de chef de chœur. Et ça devient une tradition pour lui. Il dit même une obligation pour se ressourcer. Chaque été, il prend la direction de Lourdes pour aller chanter sa foi. Je vous propose d'écouter son témoignage qu'il nous a livré à son retour il y a quelques semaines.
Depuis 4 ans maintenant, je m'inscris à ce pèlerinage national qui a lieu à Lourdes du 11 au 16 août. Et donc c'est l'occasion de pouvoir vivre sa foi par le biais notamment du chant. Et donc ça a été un moment très très fort.
Et comme vous donc qui veniez de la Mayenne, beaucoup de chanteurs de toute la France se réunissent pendant 5 jours à Lourdes pour chanter leur foi.
Exactement, donc c'est l'occasion de faire des rencontres et de rencontrer des gens qui ont la même passion et qui souhaitent vivre la foi un peu de la même manière. Donc ça a été vraiment riche.
Et l'occasion de chanter devant 15 000 personnes, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion.
Ah non, personnellement c'est quand je viens à Lourdes que j'ai l'occasion de pouvoir chanter devant 15 000 pèlerins, 15 000 fidèles, et donc c'est des moments très très forts. En plus cette année, la messe du 14 août, donc c'était la messe des malades, ça a été un moment très très fort. Très fort en prière, en recueillement, voilà.
Et d'ailleurs, cette messe des malades dont vous parlez, celle du 14 août, vous avez eu l'occasion d'être chef de chœur pour cette grande cérémonie.
Alors, il y a 2 ans, oui, l'un des responsables de ce pèlerinage national était à la recherche d'un deuxième chef de chœur. Et donc, on m'a demandé si j'acceptais de diriger la messe des malades à Pidis il y a 2 ans. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir.
Et je crois que vous avez déjà réservé d'ailleurs votre date pour l'année prochaine.
Ah oui, la période du pèlerinage national pour l'année prochaine est d'ores et déjà inscrite dans mon agenda. Donc pour moi, c'est un moment que je ne louperai pour rien au monde. Et c'est un moment très fort et très important pour moi et pour ma vie personnelle.
À l'entendre, Pierre-Olivier Bigot devient d'année en année un pilier de ce chœur national. Chanter et diriger des milliers de personnes, pour lui, c'est aussi une belle manière d'acquérir de l'expérience, Samuel.
Oui, Bastien, totalement. C'est d'ailleurs très formateur pour lui qui est un jeune chef de chœur. Ça lui ouvre même des portes. Il a fait là-bas de très belles rencontres, dont l'une, écoutez bien, l'emmènera ces prochaines semaines en Martinique.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de ce chœur pour le pèlerinage national, il y a une dame qui vient de la Martinique. Et quand elle m'a vu diriger, elle a souhaité que je puisse venir donc en Martinique pour créer un chœur là pareil de pèlerins qui chanterait autour des chants à Marie. Et donc elle m'a demandé si j'acceptais de diriger ce chœur. Ben j'ai dit oui avec grand plaisir, et il y aura un échange entre ce chœur là et l'ensemble Voca d'Élise que je dirige dans le Maine-et-Loire.
Et puis ce pèlerinage à Lourdes, ce pèlerinage national que vous faites depuis 4-5 ans, donc pour la cérémonie du 15 août, vous a donné d'autres opportunités. Plus locales cette fois, vous allez sans doute être le chef de chœur pour le pèlerinage diocésain Anjou-Mayenne. Ça sera en avril 2017.
Voilà, là on m'a demandé de prendre la direction du chœur du pèlerinage diocésain Laval-Angers, là qui aura lieu du 17 au 22 avril 2017. Donc j'ai accepté également avec grand plaisir.
C'était donc une rencontre avec Pierre-Olivier Bigot, chef de chœur au Grand Chœur, qui met dès que possible son talent au service de la foi.
Merci Samuel, on vous retrouve la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Et pour cette pause spi, nous retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors il y a un an, le 6 septembre 2015 précisément, le pape François appelait chaque paroisse, chaque communauté, chaque monastère d'Europe à accueillir une famille de réfugiés.
Et dans le diocèse de Luçon, la communauté des filles de la sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre a répondu à cet appel. Depuis le 10 mars, elle héberge Agish et Dani, deux Érythréens, autour desquels tout un réseau de solidarité s'est mis en place, grâce à des bénévoles, des élus et toute la famille montfortaine. Écoutez frère Jean Friant, frère de Saint-Gabriel.
Il y a eu beaucoup de démarches au sujet des papiers. C'est vraiment compliqué pour avoir été un peu mêlé aussi à ça. Ce n'est pas facile. C'est là que les services sociaux de la mairie, hein, Madame Nadia Girardot, est beaucoup intervenue et continue à intervenir. Les choses commencent à être au point. Ils ont maintenant le GRSA et ils attendent encore la carte vitale. Alors autrement, évidemment, il y avait toute la question de l'apprentissage du français, quelque chose d'essentiel. Donc nous avons commencé, hein, toute une petite équipe ici sur Saint-Gabriel. Un frère a été au point de départ et après on a constitué une équipe. Et entre autres sont intervenus aussi des élèves de l'établissement Saint-Gabriel-Saint-Michel, des élèves de seconde pour des courtes conversations, en plus des cours qui ont été organisés officiellement par une association Afodil sur Cholet. Alors c'est sûr que Saint-Laurent est un peu isolé, il y a beaucoup de gens très solidaires, beaucoup de bénévoles, mais il faut faire beaucoup de déplacements pour aller au cours à Cholet, pour aller à la préfecture à La Roche-sur-Yon, ou aller à l'office d'intégration et d'immigration de Nantes. Et donc ça demandait beaucoup aussi de solidarité, ne serait-ce que pour trouver des chauffeurs. Là encore, la municipalité a beaucoup investi.
Et grâce au GRSA, Agish et Dani peuvent aujourd'hui se prendre davantage en charge. Ils ont accès à l'épicerie solidaire et au magasin de vêtements du Secours catholique à Mortagne-sur-Sèvre.
Et Fanny, 6 mois après leur arrivée à Saint-Laurent, comment Agish et Dani voient-ils leur avenir ?
Vous allez l'entendre, les deux situations sont très différentes. L'un a des perspectives alors que l'autre a plus de peine, comme l'explique frère Jean Friant.
Le plus âgé des Érythréens, 41 ans, pour lui évidemment il y a toujours la question de sa famille, parce qu'il s'est trouvé il y a 2-3 ans séparé de sa femme dans cette fuite qu'il a faite. Et donc il se trouve séparé de sa femme et de ses 3 enfants. Il me disait qu'il était sûr qu'il se trouverait quelque part en Europe, mais pour le moment il ne sait pas où. Donc déjà, ce regroupement familial pour lui serait intéressant. Après, évidemment, il voudrait assez vite pouvoir travailler. Il travaillait déjà en Érythrée. Il était beaucoup dans ce qui est travaux publics, conducteur d'engins. Et il aimerait bien trouver un travail dans ce milieu. Il a réussi à récupérer son permis d'Érythréen. Maintenant, il lui reste à le traduire, parce que comme il est en arabe, à le traduire en français. Voilà. Alors lui, il se voit. Le plus jeune a plus de peine, peut-être, du fait de l'isolement. Je pense aussi que c'est le tempérament. Alors je ne sais pas. Il est un peu découragé pour apprendre le français. Il faisait des études. Il n'a jamais travaillé, à part étudiant. Et voilà. Donc pour lui, les choses ne sont pas trop claires, je crois. Donc tout ça aussi, c'est à rechercher ensemble et essayer de les accompagner là-dedans.
Et dans la région, d'autres diocèses se sont mobilisés. Par exemple, dans la Sarthe, 3 paroisses et des communautés religieuses ont accueilli des réfugiés.
Et merci Fanny pour ce point complet. On poursuit cette pause spi avec une information en Mayenne. Une nouvelle page s'ouvrira dimanche à l'abbaye Notre-Dame de Port du Salut d'Entrammes. Les 7 moines cisterciens de l'abbaye, dont la moyenne d'âge était de 70 ans, craignaient pour l'avenir de leur communauté. Eh bien, ils seront rejoints bientôt par 5 moines venus de l'abbaye de Meilleray de Bretagne en Loire-Atlantique. numérique. Ces derniers sont en effet obligés de mettre la clé sous la porte, leur activité n'étant plus viable. Pour ne pas mourir, ils quittent donc la Loire-Atlantique et viennent vivre et travailler avec les trappistes. Les deux communautés qui se côtoient depuis de nombreuses années ont en effet décidé de s'unir dans cette nouvelle communauté.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
C'est chaque année l'événement économique incontournable du pays de Châteaubriant, Loire-Atlantique. La foire de Béret s'est ouverte ce vendredi. Pendant tout le week-end, près de 60 000 visiteurs sont attendus pour découvrir ce rendez-vous agricole, mais également commercial et festif, avec sa fête foraine notamment. Une foire millénaire, Anthony Torzec, où l'on vient pour se retrouver.
Oui Bastien, cette foire est considérée comme l'une des plus vieilles foires de France. Ses origines remontent officiellement à l'an 1050. Oui, vous avez bien entendu, 1050, quand Monseigneur Erard, évêque de Nantes, confirme son existence. Elle se déroule chaque année pendant plusieurs jours, début septembre, sur le champ Saint-Père, situé dans le bourg de Béret, à l'ouest du centre-ville de Châteaubriant. Les 10 hectares d'exposition en plein air rassemblent à la fois les stands des entreprises de la région, mais également les animaux de la ferme, qui vont concourir pendant 3 jours, et les manèges de la fête foraine. Avec un thème chaque année, cette année c'est la danse. Un parquet de 300 mètres carrés a été installé. Il accueillera les animations des associations de danse, et elles sont nombreuses dans le pays castelbriantais. Bref, comme chaque année, il y en aura pour tout le monde, et cela fait 967 ans que ça dure. Et ce ne sont pas les nouvelles façons de consommer qui vont changer les choses. Écoutez le maire de Châteaubriant, Alain Huneau.
On peut dire que la foire de Béret fait partie de l'identité territoriale de tout un pays au nord de la Loire-Atlantique. Et quand on voit qu'une foire est séculaire, c'est qu'elle signifie quelque chose. Les gens s'y rassemblent, se rencontrent, ils sont attachés. Et c'est une foire qui a pour particularité, outre le fait qu'elle soit ancienne, qu'elle s'est modernisée, c'est une foire qui est dans son temps, dans son époque. Il suffit de se promener sur le parc exposition de la foire de Béret pour se rendre compte que les 450 exposants vendent du matériel moderne et que cette foire, elle est tout à fait adaptée à notre époque.
On se dit qu'au temps d'Internet, que la foire, c'est quelque chose de désuet.
Eh bien, si elle était dépassée, il n'y aurait personne. Il n'y aurait surtout pas d'exposants. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc quand vous doublez le nombre d'exposants depuis 15 ans, ça signifie que les gens ont besoin de se rencontrer, de se contacter, d'avoir un service. Et c'est tout à fait réconfortant. Ça montre quoi ? On a d'une part, à l'ère du numérique et de l'instantané, des moyens de communication et de consommation faciles. Mais on a aussi quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est le contact humain.
Alain Huneau, le maire de Châteaubriant. La foire de Béret, c'est donc à partir de ce vendredi et jusqu'à lundi soir. Le prix d'entrée est de 3,50 € ce vendredi, et ensuite le week-end 6 €. L'occasion donc d'aller voir les animaux de la ferme, les stands des entreprises, et puis quelques tours de manège également, Bastien.
Ah bah pourquoi pas, Anthony, on vous y retrouvera peut-être d'ailleurs ce
absolument.
Week-end.
Absolument, sur place, tiens.
Allez, on vous retrouve la semaine prochaine, Anthony, pour un nouveau numéro de l'Hebdo Région. Après Bordeaux et Metz, les terres de Jim, Fête nationale de l'agriculture se tient cette année à Landevieille en Vendée. 100 000 personnes attendues sur le site de 120 hectares ce week-end. Au programme, de nombreuses animations pour promouvoir l'agriculture française, sa filière et son dynamisme. Et un rendez-vous attendu par de nombreux agriculteurs. La finale nationale de labour à l'origine de cette grande fête. À noter la présence de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, ce vendredi. Autre grand rendez-vous à noter, les Accroche-Cœurs investissent Angers ce week-end. Le festival des arts de rue débute ce vendredi. 200 à 250 000 personnes sont attendues sur 3 jours dans les rues de la ville centre du Maine-et-Loire. Enfin, une dernière information sportive cette fois. Le prince Albert II de Monaco sera le parrain du 8e Vendée Globe. Il donnera le 6 novembre le départ de la course. L'héritier de la famille Grimaldi a été choisi pour son image internationale et son goût pour le sport. Voilà, c'est la fin de cette Hebdo Région. Votre magazine d'actualité vous était présenté aujourd'hui par la rédaction de RCF Anjou avec l'aide des autres rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Merci de nous rester fidèles, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.